Donc maintenant, nous avons une période de discussion. Et là, vraiment, c'est. Je pense que on pourra finir les préparations pour le repas après la discussion. Merci. Et donc, cette séance. Maintenant, elle est vraiment très ouverte. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ou peut-être un thème que vous voudriez que j'aborde, c'est vraiment très ouvert, ou par rapport aux expériences, ou ce que vous avez fait ce matin. Oui. Alors là, de nouveau, il y a, comme vous avez raison de dire, il y a quand même une gamme. C'est un peu par rapport, comme on utilise un ancrage, ça va être un peu par rapport à la question de comment on revient. Est-ce qu'on revient d'une manière où on se force? Est-ce qu'on peut revenir d'une manière qui est douce? Ça, c'est un peu la question dans un sens. Et moi, je pense que dans un sens, on passe par divers moments. Des moments où on a l'impression d'être plus en bataille avec soi-même. Mais il me semble qu'en général, si... Je pense qu'il y a un peu une différence entre... batailler contre un adversaire et faire le choix de revenir à l'ancrage. Parce que je pense qu'il y a une différence si on est assis en méditation, on a une pensée et immédiatement on se dit, c'est pas bien, je ne dois pas avoir de pensée. Je suis une mauvaise personne parce que j'ai des pensées, il faut que j'arrête, il faut que je revienne. Ça va être très différent si vous avez une pensée, parce que le cerveau ne va pas se mettre en arrêt parce qu'on est en train de méditer. On ne va pas s'arrêter d'entendre. Donc on ne peut pas non plus s'arrêter de penser. Donc ce n'est pas l'idée d'un arrêt total. Mais plus qu'il va y avoir un peu comme de l'effervescence. Et donc, il va y avoir des pensées. Et comme on a l'intention, je parle plus de l'intention cet après-midi, on a l'intention de revenir, est-ce que c'est un peu comme un choix? Moi, j'aime beaucoup les fruits. J'aime beaucoup les cerises en juin. En juillet, il y en a encore un peu. Et donc, je vais dans un primeur. Dans un primeur, il y a plein de fruits. Et donc, je pourrais décider, j'achète tout. Et puis, je mange tout. Ou je peux décider, ah ouais, il y a tous ces beaux fruits, mais je vais me focaliser sur les cerises. Donc, j'achète que des cerises, laisse le reste. Et donc, je ne me bataille pas avec les autres fruits, je juste dis, ah oh ouais. Je ne peux pas tout manger, donc je vais m'ancrer sur les cerises et c'est ça que je vais prendre. Et je pense que, est-ce qu'on pourrait faire un peu la même chose? On est assis, c'est un peu un choix. On continue avec la pensée ou on va à la respiration. Mais qu'est-ce qu'on entend par revenir? Est-ce qu'on entend je reviens et je dois rester avec la respiration et ne plus repartir? Ou est-ce que je reviens sachant que je vais repartir de toute façon? Et donc, c'est comme une danse. On va de ce côté, oups, maintenant on revient par là. on va de ce côté, maintenant on revient par là. Donc, est-ce qu'on peut accepter que c'est naturel d'avoir des pensées, en même temps, comme on fait un exercice, on essaie de s'y tenir d'une certaine façon, mais d'une façon souple. Donc c'est un peu une question, est-ce que l'entraînement peut être souple, ou est-ce que l'entraînement va être un peu rigide et poussé? Je pense que c'est un peu la question. Et après, ça va être aussi, j'en parlerai plus cet après-midi, les conditions dans lesquelles on se trouve. Parce que moi, là, je viens de faire une retraite de 5 jours, je n'ai pas beaucoup de pensées. Je m'assois, j'ai pas beaucoup de choses à me faire partir, on pourrait dire. Mais vous pourriez être dans une situation où vous avez des tas de choses à décider, il y a des tas de choses qui se passent, et donc il y aura plus d'effervescence. Ça dépend aussi de l'effervescence dans laquelle on va se trouver. Et donc, est-ce qu'on peut accepter l'effervescence s'il y en a beaucoup, et en même temps, de temps en temps, revenir au souffle pour faire que l'effervescence ne s'amplifie pas? Et donc, comme une antidote souple. Alors, derrière vous, madame, et après vous. Oui ?
Non, je voulais parler d'ouverture à l'autre.
Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort ?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture à l'autre, en fait. D'ouverture à
l'autre. Je voulais dire que dans cette méditation que l'on fait, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'ouverture à l'autre. C'est ce que vous voulez dire.
Oui, c'est ce que je veux
dire. Voilà. Alors, il faut voir que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que le thème aujourd'hui va être la méditation, on pourrait dire personnelle, par rapport à comment on l'a fait, de quelle manière on l'a fait, et donc ça va être plus la relation et l'ouverture à soi-même, et avec ce qui se produit en nous-mêmes. Alors c'est là où je vais en venir, alors je ne sais pas si vous allez...
C'est pas forcément un combat contre nous, c'est pas une philosophie en fait.
Et donc ce que je voulais dire, c'est que demain je vais me baser plus sur la relation aux autres, et donc là je vais introduire des méditations qui seront plus dans la relation à l'autre, comme la méditation de la bienveillance, la méditation de l'appréciation et des choses comme ça. Donc je sais, si vous revenez demain... Il y aura la bienveillance. Cet après-midi, il y aura l'écoute. L'écoute qui, pour moi, est une approche qui va aller aussi vers la bienveillance. Donc, je m'excuse si ça ne va pas dans un sens dans votre intérêt, qui a l'air d'être de vouloir vraiment travailler sur l'ouverture du cœur, sur la bienveillance, sur la relation à l'autre. Et ça, je voudrais le faire demain. Parce que je pense que si on n'arrive pas à être dans une certaine relation souple, dans une relation stable et ouverte avec ce qui se passe en nous-mêmes, et donc d'être moins dans le jugement, la critique par rapport à nous-mêmes, d'un certain résultat, d'une certaine attente, et c'est ce dont je vais parler demain, c'est pour moi la base de la bienveillance, de l'ouverture du cœur. C'est du fait qu'on voit l'autre pour lui-même, pour elle-même, mais aussi qu'on est ouvert aux conditions de l'autre, de la même manière qu'on est ouvert à nos conditions, internes et externes. Oui.
Oui, je me demandais si on ne pouvait pas remplacer ce terme d'effort qui est connoté de manière un peu difficile chez nous par rapport à notre éducation, etc., par la notion d'intention profonde et d'attention délibérée.
Non, tout à fait, c'est une très bonne question, et c'est ce dont je vais parler un peu cet après-midi, par rapport à l'intention, parce qu'il y a une grande notion d'intention, et quelle sorte d'intention, comment l'intention peut vraiment avoir une intention, avoir une certaine direction, Par exemple, on peut avoir la direction de la bienveillance, la direction de l'appréciation, qui va faire une différence que si on avait peut-être une direction plus neutre ou une direction, bien sûr, plus agressive. Et donc, oui, l'intention est très impliquée dans la notion d'effort. Et donc, c'est ce dont je voulais parler cet après-midi. Et de la même manière, c'est l'attention. Donc, la méditation de la pleine conscience, qui en fait, il faut voir que dans la méditation de la pleine conscience, il y a beaucoup de différentes techniques. Et donc, il y a aussi une chose dans la méditation, c'est qu'on peut cultiver, par exemple, la bienveillance, l'ouverture du cœur, directement ou indirectement. Et ça, c'est un peu une discussion qu'on peut avoir par rapport aux techniques de méditation. Qu'il y a certaines techniques de méditation qui n'ont pas l'air d'être orientées, par exemple, vers l'ouverture du cœur ou la bienveillance. Mais moi, pendant 10 ans en Corée, j'ai fait une technique qui n'avait rien à voir avec la bienveillance ou l'ouverture du cœur. C'était ce que le maître nous faisait faire l'autre jour, c'était juste poser une question. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, en faisant cette méditation, en moins de 6 mois, je me suis vue changer et devenir beaucoup plus compassionnée, beaucoup plus bienveillante, mais vraiment dans l'intérêt de l'autre et pas dans mon propre intérêt. Et ceci m'a démontré qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a une manière, moi je pense qu'à la base de toute méditation, si on pratique ensemble l'ancrage et le regard profond, il y aura dans un sens une transformation par rapport à la sagesse et par rapport à l'ouverture du cœur. Mais de nouveau, on peut le faire directement ou on peut le faire indirectement. Mais aussi, et c'est pourquoi je vais parler de ça demain, attention délibérée. On peut mettre l'attention délibérée sur pas mal de choses qui vont en fait nous faire raisonner différemment en termes de la méditation. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant là où j'ai pratiqué pendant 10 ans quand j'étais plus jeune, en Corée, c'est qu'il n'y avait pas comme dans la méditation Theravada, Vipassana, méditation sur la bienveillance, sur la compassion, sur l'appréciation, etc. Il n'y avait pas du tout ce type de méditation. Mais la pratique de la compassion, de la bienveillance, en fait, se trouvait dans l'éthique. Et donc, ils avaient tout un système d'éthique, donc une attention envers la façon dont on agissait, et avec quelle intention, et donc toujours avec cette intention de compassion avant l'action. Et pour moi, c'était très intéressant de voir ça, de voir qu'en fait, la pratique de la compassion et de la bienveillance était dans l'éthique. Et c'est pour ça que je vais en parler demain. Tandis que dans d'autres pratiques, ça sera plus direct. Et donc, il y aura plus une attention délibérée sur ci ou sur ça. Et moi, je trouve que c'est assez impressionnant si on met son attention sur quelque chose, avec la pleine conscience, le pouvoir que ça a de changer un peu la relation sur laquelle on met l'attention et la pleine conscience. Tout à fait. Oui.
Quand vous dites poser une question, qu'est-ce que c'est ça?
Alors, c'est pas, à moins qu'il y ait une demande commune du groupe, je ne comptais pas introduire cette méditation, parce que de nouveau, en un week-end, on ne peut pas faire tout, et donc il y a différentes techniques de méditation, je ne comptais pas l'introduire, mais s'il y a une demande, je pourrais l'amener demain. C'est une technique qui est faite en Corée, où on s'assoit en méditation et on pose juste une question intérieure, silencieusement, qu'on place un peu dans le ventre. Et donc on pose cette question, qu'est-ce que c'est? Mais l'intention, c'est pas une pratique de réponse. C'est vraiment une pratique de questionnement. Et donc l'intérêt, c'est de développer une sensation de questionnement. Et donc, il y a certaines personnes qui adorent cette pratique, et il y en a d'autres qui se disent « Pourquoi je pose cette question stupide ?» Donc c'est comme toute technique. La respiration va convenir à certains, certaines, d'autres, l'écoute va leur convenir mieux, d'autres, la méditation de la bienveillance sera mieux, puis d'autres, ils trouveront le questionnement qui leur convient. Donc c'est une certaine pratique de méditation. Oui.
Est-ce que ce questionnement, c'est juste dans l'assise ou dans la marche, ou c'est quelque chose qu'on amène dans la vie quotidienne ?
Oh non, c'est tout le temps. En fait, c'est vraiment une... C'est un peu comme... Il y a cette idée de pratiquer la pleine conscience, et donc on pratique la pleine conscience tout le temps. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on pratique la pleine conscience tout le temps ? En fait, on cultive deux choses. L'ancrage... et ce regard profond qui essaie d'être conscient du changement. Et donc, moi, je pense que c'est en fait le papier de la conférence à laquelle j'assistais, que j'ai faite, qui était sur le fait que, avant la technique même du questionnement ou de la pleine conscience, moi, je pense qu'il y a une base qui est l'ancrage et, disons, un questionnement expérientiel au regard profond ou... on peut l'appeler de différentes manières. Et donc, différentes bouddhistes traditions vont les faire différemment. Et donc, dans le Vipassana, le Theravada, il y a la pleine conscience. Chez les Tibétains, il y a autre chose. Chez les Zen, il y a différentes choses aussi. Et donc, oui, de la même manière, ce que j'ai remarqué quand j'étais en Corée au début, c'est que j'ai fait le questionnement et... de nouveau, en moins de 6 mois, je suis devenue consciente. Donc, je pense qu'il y a aussi un moyen direct de cultiver la pleine conscience et indirect de cultiver la pleine conscience, et souvent on arrive un peu au même endroit.
Est-ce qu'on peut associer ce questionnement à la pratique toute simple ?
Tu veux dire la pratique de la pleine conscience, par exemple ?
Assise, enfin, oui, oui. Ou c'est, ça peut rendre les choses un peu...
Non, moi personnellement, donc en Corée, il y avait un maître qui disait, si on pratique ce questionnement, arrive un moment où tu auras juste à le poser une fois le matin et tu auras cette sensation de questionnement qui est avec toi toute la journée. Ça met du temps, hein, est-ce que c'est comme la pleine conscience, est-ce qu'on est pleinement conscient tout le temps, ça dépend de ce qui se passe. Et donc... je pense que, de nouveau, il faut voir qu'est-ce qui peut aller ensemble et qu'est-ce qui ne peut pas aller ensemble. Donc, demain, on fera les phrases de la bienveillance. Et personnellement, je dirais je ne mettrai pas les phrases de la bienveillance et le questionnement ensemble, parce que là, on serait occupé. Hein. Mais je mets ensemble, personnellement, le questionnement avec la respiration ou le questionnement avec l'écoute. Parce que c'est juste, tu peux avoir le questionnement qui est entouré par de l'écoute ou qui est un peu basé sur la respiration. Donc je pense que, pour moi, je vois certaines choses qui sont complémentaires. Et après, c'est à chacun de voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va m'aider à m'ancrer d'une façon stable et ouverte, qu'est-ce qui va m'aider à être conscient du changement et de la conditionnalité. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de techniques, et après, c'est ce qui va convenir dans quelles circonstances. Oui.
Oui, vous employez l'expression pleine conscience. D'autres emploient plutôt pleine présence. Est-ce que vous faites une nuance ?
Alors, le problème que l'on a, c'est que le français est un peu problématique. Et aussi que l'anglais dans la technique de la pleine conscience est devenu un peu dominant. Ce qui fait que ce qui se passe, vous avez le terme en pali qui veut dire sati. Et sati, ça veut dire d'être conscient, de prêter attention, d'être avec ce qui se passe d'une certaine manière, qui est bienveillante et attentionnée. Donc, on est en train de parler d'une pleine conscience qui n'est pas juste être conscient, mais c'est être conscient d'une certaine manière. Et donc, après ce terme, sati, S-A-T-I, qui est date de 2200 ans, 2500 ans avant, a été traduit en anglais en 1840-30. Et alors, en anglais, à cause de la Bible, ils ont traduit mindfulness. Donc, après, c'est resté un peu dans les mœurs, bien que c'est aussi, satyauti a été aussi traduit par awareness, qui en français, on ne pourra pas faire grand-chose avec, on dira conscience, on n'est pas un peu bloqué là. Et donc, après, puis John Kabat-Zinn a vraiment mis d'actualité mindfulness. Et donc maintenant, on a même la fondation de la mindfulness en France. Et donc, c'est comment traduire le terme? Est-ce qu'on le traduit de l'anglais? Est-ce qu'on le traduit du pali? Et est-ce qu'on trouve un terme français qui soit approprié? Parce que le truc avec ce terme sati, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en fait, ça représente trois choses. Ça représente le fait qu'on met cette attention délibérée, mais délibérée, douce et équilibrée. Il y a toujours cette notion de douceur et d'équilibre. Donc, on met ça. En même temps, en faisant ça, on va devenir plus conscient. Donc, vous avez l'outil qui devient un peu le résultat et qui devient un peu l'effet aussi. Enfin, c'est en fait, on utilise la pleine conscience pour être pleinement conscient, pour devenir plus conscient. Donc, on pourrait parler, parce que quand on parle de sati, on parle en fait d'être présent à ce qui se passe ici et maintenant. Donc, on pourrait peut-être utiliser le terme pleine présence, mais de nouveau, en français, il faudrait le qualifier. Pleine présence qui est bienveillante et attentionnée, équilibrée, stable et ouverte. Après, il y a aussi un petit peu un débat, et ça c'est dans les milieux bouddhistes, il y a un débat un petit peu entre est-ce que sati par soi-même est en fait neutre, et donc c'est juste être conscient, avoir de l'attention, et que ça ne devient ce qu'on cultive ici que quand il y a sama sati, S-A-M-M-A, qui veut dire approprié, bénéfique. Et donc, quelques termes que ce soit que l'on utilise, moi ce que je pense qui est important, c'est moins le terme conscience, attention, présence, que comment on les qualifie, avec attentionné, bénévolent, approprié, équilibré. Donc il y a un courant qui dit c'est neutre, il faut y ajouter quelque chose. Et il y a un autre courant qui dit, dès qu'on fait la pleine conscience, il faut qu'il y ait tous ces facteurs dedans. Mais bon, moi je pense qu'ils disent un peu la même chose, c'est un peu de la sémantique. Oui.
Moi j'ai juste une question rapide, le vocabulaire, ça veut dire quoi délibéré en fait?
Délibéré, ça veut dire systématique.
D'accord.
Intentionnellement. Intentionnellement. Donc c'est pas la différence entre attention délibérée et attention neutre, attention vague, ça serait l'opposé. Et mais en français, délibéré a une tout petit connotation, un tout petit peu négative. Ça, c'est de nouveau les termes. Les termes prennent presque une vie eux-mêmes. Et donc, on utilise un terme. Et est-ce que ce terme va apporter une petite tonalité du ressenti plaisant, neutre ou désagréable? Et donc vous avez un terme qui est peut-être neutre en pali, sati. Après on dit conscience en français, quand on dit conscience, oups, on commence à dire mauvaise conscience, bonne conscience. Donc on a une relation ambiguë avec le terme conscience à cause de d'autres choses historiques et tout ça, sociétales. Et donc on dit pleine conscience parce que là ça le met un peu en dehors de bonne et mauvaise conscience, la façon dont souvent on utilise conscience. Et donc, on commence à donner un ressenti différent. Quand on commence à passer de bonne conscience, mauvaise conscience, à pleine conscience, on change un peu l'optique. Et donc, délibérer, on parle de délibération, c'est quand on parle systématiquement de quelque chose. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Il n'y a aucune autre question. Est-ce qu'on fait un peu d'assise, un peu de marche avant le repas? Est-ce que tout a été mis? Tout n'a pas été mis. Ok. Donc, ce qu'on va faire, à moins qu'il y ait soudainement une question urgente, mais il n'y a pas l'air d'avoir de questions urgentes, donc on va marcher pendant 15 minutes. On va marcher ou se reposer pendant 15 minutes, et puis après, à 12h30, quand une fois que tout le repas est mis sur la table, après on va se servir. Et avant que l'on prenne le repas, avant que l'on marche, je voulais juste faire une petite annonce par rapport à la notion de dana. Comme ça, les gens qui veulent partir peut-être cet après-midi le sauront. C'est il y a la façon dont Terre d'Éveil travaille, c'est que les enseignants qui viennent ne sont pas payés par Terre d'Éveil. On a juste le transport de train qui est remboursé. Et donc, c'est pour, donc vous payez quelque chose, mais c'est pour les frais de l'association, de louer la salle et de payer le voyage. Et nous, les enseignants, ne recevons rien de Terre d'Éveil. Et c'est dans l'espoir de cultiver, dans un sens, une relation un peu différente par rapport à comment on paye pour les choses. Parce qu'il y a cette idée de vraiment d'offrir l'enseignement, d'offrir l'enseignement de la pratique de la méditation et de ne pas mettre un coût spécifique par rapport à une journée de méditation, deux journées de méditation. Et donc c'est un moyen de pratiquer une des qualités qui est importante dans la pratique, c'est la générosité. Et de voir comment on peut avoir, dans un sens, un soutien mutuel, généreux. Et donc, il y a une boîte là-bas pour les dons, pour mon enseignement durant ce week-end. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de continuer cette pratique. Et comme ça, c'est ouvert à tout niveau de richesse ou non-richesse des gens de nos jours. Et donc de donner ce que vous pouvez, ce que vous voulez, de comment vous voulez soutenir mon action. Mais aussi, moi, je le vois comme, en tant que pratique, de quel est un peu mon rapport à un don que je ferai à quelqu'un. Et est-ce qu'on donne le plus qu'on a? Est-ce qu'on donne le moins qu'on a? Je me rappelle, un jour, j'étais en train avec une amie de ma nièce, toutes les deux, à chercher des cadeaux pour la fête des mères. Alors, l'amie a vu un tout petit vase, puis elle s'est dit, ah, j'achète ça, puis comme ça, j'aurai plein d'argent pour m'acheter des choses. Et puis après, on est allé dans un autre endroit pour voir autre chose, et là, elle voit un beau vase. Je pouvais voir qu'elle était tellement tentée d'acheter ce vase pour sa mère parce qu'il était tellement beau. Et elle était un peu entre est-ce que je l'achète et puis là j'ai plus rien pour m'acheter quelque chose ou est-ce que je garde le petit vase. Et c'était intéressant de voir un peu cette inclination. Est-ce que je vais vers la générosité ouverte à l'autre ou est-ce que je pense à plus une générosité un peu limitée, on pourrait dire. Et puis finalement, elle s'est décidée, elle a acheté le vase. Et j'avais trouvé très intéressant une manière de quand on fait des dons aux personnes, aux associations, de quelle façon on fait ce choix? Est-ce que ça peut être un choix souple, un choix équilibré? De nouveau, un choix où on ne se force pas, mais il y a un peu cet élan du cœur, cette ouverture. Donc, vous avez la boîte et vous pouvez le faire quand vous voulez, dans la journée ou demain aussi, si vous revenez. Donc maintenant, on a 10 minutes de méditation marché, et puis à midi et demi, on sonnera la cloche, et puis on se servira à manger en deux files.
Je vous demanderai donc éventuellement pour le repas de laisser Martine se servir en premier. Et puis concernant les gobelets, donc c'est un gobelet pour la journée et pour les personnes qui reviennent demain, c'est un gobelet qui va servir aussi pour demain. Vous mettrez donc votre nom. Alors, on n'a pas de marqueur, si quelqu'un a un marqueur, on va chercher un trou. Sinon, ce sera avec un stylo.
Merci. Donc il y a 10 minutes de marche, et puis après on mange, et quand on mange, de nouveau ça va être intéressant par rapport à d'être ouvert, présent à ce que l'on mange, un peu cette appréciation de ce que les gens ont apporté, ont offert, et aussi d'être conscient de manger. Et après bien sûr vous pouvez vous reposer dans la salle ou marcher autour. Et après on recommencera à 2h pile, donc si vous pouvez être là à 2h moins 5.